Le problème avec toi, c'est que tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça. Je sais tout, mais tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça. Je vais au cinéma, je m'envole en Afrique. Je cours très loin de toi, je me cogne à la brique. Je vais voir mon docteur, car j'ai des pierres au cœur. Et tout ça me coûte un bras, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Le problème avec toi, c'est que tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça.
Je consulte ma mère, je consulte mon père. Je consulte mon psy et mes amis aussi. Et mes amis me fuient, mon père, ma mère me fuient. Bientôt mon psy, tu comprends ce que je te dis?
Le problème avec toi, c'est que tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça. Je sais tout, mais tu vois, car tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça.
Je m'essaie au bouddhisme, je m'essaie à l'hindouisme. Je me fais musulman, j'appelle ma maman. Peut-être le marathon, peut-être la religion. J'ai besoin d'exercice, besoin d'exorcisme.
Le problème avec toi, c'est que tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça. Je sais tout, mais tu vois, toi, tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça.
J'essaie de faire la fête et je fais du yoga. Je me prends la tête et même la tête en bas. Et j'espionne la nuit, je repasse mes chaussettes. Je dors jusqu'à midi, je poursuis ma quête.
Le problème avec toi, c'est que tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça. Je sais tout, mais tu vois, toi, tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça.
Je passe du temps sur Facebook, je me couche très très tard. Je me laisse pousser un bouc, je sors dans les bars.
Je vis l'instant présent, je m'ennuie tout le temps. Je m'inscris à des concours, je renonce à l'amour.
Le problème avec toi, c'est que tu m'es incurable. Le problème avec toi, c'est ça. Je sais tout, mais tu vois, toi, tu m'es incurable. Le problème
Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière, le problème avec toi.
Actualité culturelle, la vie est belle pour Catherine Levac. C'était soir de première hier au Théâtre Maisonneuve pour l'humoriste franco-ontarienne intitulé « Velours ». En référence notamment à son existence paisible, le premier one-man show, woman show de Catherine Levac n'a pourtant rien d'anodin. C'est même une des propositions les plus rafraîchissantes qu'on ait vues depuis un bon moment. Alors, c'est une critique de Stéphanie Vallet dans la presse d'aujourd'hui que je vais vous lire. Tout sourit à Catherine Levac. 5 ans après être sortie de l'École nationale de l'humour, la jeune femme de 28 ans présente son premier spectacle et peut se targuer d'avoir déjà inscrit à son CV des projets télé comme SNL Québec ou Like Moi. Les révélations de l'année 2015 au gala Les Oliviers et de son propre aveu, une vraie première de classe. À peine débarquée sur scène, Catherine Levac a l'esprit vif et habite totalement l'immense scène du Théâtre Maisonneuve. Le ton est tout de suite donné. Pour son premier spectacle, l'humoriste délaisse les personnages qui l'ont fait connaître. Paige Beaulieu et Rebecca Sophie laissent entièrement place au récit de la vie de Catherine Levac qui pose un regard incisif sur la société qui l'entoure et sur sa génération, les Y. tout en racontant au public des souvenirs de sa jeunesse, comme les camps de pastorale auxquels elle a participé, Catherine Levac se permet des observations toujours très drôles sur la religion et sa vie en Ontario avec une maîtrise totale du sarcasme. Les écoles de rang, c'est comme les filles de Caleb, mais on couchait pas avec notre professeur, dit Catherine Levac dans Velours. Sans jamais laisser de temps mort dans ses textes coécrits par David Bocage et Thomas Levac et sélectionnés par Marc Brunet, l'humoriste passe aisément du coq à l'âne, chantant même une chanson sur les dames de 64 ans. « J'ai tellement de choses à vous dire », lance-t-elle avant de pousser la note pour porter un regard très sarcastique sur les boomers. C'est sa capacité à dire les choses sans filtre à travers de petites choses de la vie à première vue anodines qui fait le charme de Catherine Levac. L'air de rien, elle n'hésite pas à aborder des problèmes aussi variés que les défaillances du système de santé, la place des femmes dans la société ou la protection de la langue française. Catherine Levac apporte un peu d'air frais dans le monde de l'humour, autant grâce à son regard d'ontarienne sur les Québécois, tout simplement irrésistible, que par celui d'une jeune Y sur sa propre génération. Les amateurs d'humour anglophones seront ravis par Velours. Catherine Levac est d'ailleurs quelque part entre le style de Louis C.K. et celui de Sarah Silverman, avec une petite touche d'absurde qui la distingue. Vous l'aurez compris, le premier spectacle de Catherine Levac est une carte de visite des plus réussies qui surpasse nos attentes. Une performance rafraîchissante d'originalité, avec laquelle Catherine Levac place la barre bien haut pour les humoristes de sa génération sur le point de se lancer sur scène. Un petit potin. L'animatrice Vanessa Pilon et l'auteur-compositeur-interprète Alex Nevsky attendent leur premier enfant. La nouvelle a d'abord été révélée hier par le magazine Éco-Vedette avant d'être confirmée quelques heures plus tard par les principaux intéressés. Nous aurions préféré vous annoncer la nouvelle nous-mêmes, mais voici, on s'est aimés si fort qu'on a fait germer la vie, a écrit le couple sur le compte Instagram de Vanessa Pilon, qui est enceinte de 4 mois. Quincy Jones dit tout. À l'approche de ses 85 ans, le légendaire compositeur, trompettiste et musicien Quincy Jones a accordé une longue entrevue au magazine Vulture, où il a enchaîné des déclarations sulfureuses sur Michael Jackson, un homme machiavélique qui a volé beaucoup de chansons, dit-il, donnant en exemple Billie Jean, repiquage de State of Independence de Donna Summer, selon lui. Sur Hillary Clinton, il y a un côté d'elle, des secrets dont je ne dois pas parler, j'en sais trop. Sur John F. Kennedy, tué par le mafieux de Chicago, Sam Giancana. Il y avait des liens entre les Kennedy, Frank Sinatra et la mafia pour avoir des votes de l'Illinois. Sur sa première impression des Beatles, les pires musiciens du monde, Paul McCartney, était le pire bassiste. Le Festival Montréal en lumière, qui se déroulera du 22 février au 4 mars, a annoncé hier sa programmation extérieure. De nombreux spectacles gratuits seront présentés, entre autres par Dommatic, Marie-Pierre Arthur, Alyosha, Canaille et Harry Cuicui. Il y aura aussi des DJ pour faire danser les festivaliers, ainsi que 2 soirées marathon d'humour animées par Richardson Zephyr et Alphée Gagné, où de nombreux humoristes, Mehdi Boussaidan, Les Grands Crus, Arnaud Soli et Mélanie Ganimé, entre autres, se succéderont sur une des scènes extérieures. Des ateliers pour s'initier au métier de DJ, des 5 à 7 thématiques, dont un qui réunira les vedettes de la série Le Chalet, une soirée canadienne de Montréal, il y aura des activités pour tous les goûts, en plus de la traditionnelle tyrolienne et de la grande roue, un chalet chauffant sera installé en plein cœur de la place des festivals. Par ailleurs, on a annoncé le retour d'Illuminar. Pour la 2e année, 10 d'œuvres lumineuses créées au Québec ou ailleurs, France, Pays-Bas, Belgique, seront installées autour du site du festival. Dans le Journal de Montréal, sous la plume de Cédric Bélanger, la loterie Elton John. Julie Carrière est une fan d'Elton John. Dans la jeune trentaine, elle n'avait encore jamais vu son idole en concert. Alors, quand elle a su que sa tournée d'adieu passait par le Centre Bell en octobre, elle n'a pris aucune chance. Vendredi matin, 15 minutes avant le début de la vente des billets au public, une alarme a sonné pour lui rappeler de brancher 3 appareils à la billetterie d'Evenco. Ses espoirs s'étaient déjà évanouis. 21 secondes après le début de la mise en vente, a-t-elle raconté dans un courriel expédié au journal. Vous allez dire que 21 secondes, c'est exagéré, qu'il a sûrement fallu au moins quelques minutes avant de se buter le nez à l'impossibilité d'acheter une paire de billets. Non, non, c'est bel et bien 21 secondes, m'a-t-elle répété, quand je l'ai contactée. J'ai essayé dans toutes les sections, rien à faire. Combien d'autres fans de la star qui ont exprimé leur dépit sur les réseaux sociaux depuis vendredi? Julie se demande, Julie se demande combien de billets étaient réellement disponibles vendredi matin à 10h, après plusieurs jours de prévente de toutes sortes pour les détenteurs de cartes American Express, le commanditaire de la tournée, le fan club du chanteur, etc. La réponse, vous ne l'aurez pas. Dans le milieu du spectacle, on se garde bien d'éventer cette information. Mais pour les fans frustrés, ça donne vaguement le sentiment que cette vente de billets s'était transformée en une loterie Elton John. « Ce qui me fâche, c'est la promotion intense faite par Evenco », dit Julie. « Si tu n'as plus de billets pour les gens normaux, n'en fais pas, c'est rire du monde. » La colère des gens normaux est légitime, surtout lorsque leur seule option pour obtenir les places convoitées est de payer le gros prix sur les sites de revente comme StubHub ou Vivid Seats. Apparemment, eux, ils n'ont pas de problème à obtenir des billets. Hier matin, StubHub proposait 1365 billets pour le concert d'Elton John au Centre Vidéotron de Québec, où un record de vitesse a aussi été établi lors de la mise en vente de vendredi. Il y en avait 1234 pour celui de Montréal. Les tarifs, rien en bas de 150 $. Presque le triple de la place la moins chère affichée dans les billetteries officielles. De la spéculation qui ne s'embarrasse d'aucun scrupule et qui enrage et décourage les fans comme Julie. « Je ne peux pas me permettre de payer 900 $ pour 2 billets », se désole-t-elle. À ce prix-là, elle n'est certainement pas la seule admiratrice d'Elton John qui ne pourra lui dire adieu l'automne prochain. On a créé un monstre, dit Denis Villeneuve. Voilà la déclaration qu'a faite Denis Villeneuve au journal britannique The Telegraph lors d'une interview réalisée 4 mois après la sortie de Blade Runner 2049, produit au coût d'environ 300 millions US, incluant le budget du marketing. Le film n'a pas dépassé la barre des 100 millions US au box-office nord-américain et les recettes à l'international se sont élevées à 259 millions US. C'est seulement au moment où j'en suis sorti que j'ai réalisé que nous avions créé un monstre, a-t-il déclaré. Je ne recommencerai pas. Le cinéaste québécois se souvient notamment du jour où un producteur lui a fait remarquer qu'il venait de faire le film Art et Essai le plus cher de toute l'histoire du cinéma. Rappelons que Blade Runner 2049 a décroché 5 citations à la prochaine cérémonie des Oscars.
Si le compte à rebours repart, quand on est dans l'ombre, les émotions fortes. Le vent se lève, les courants se mêlent, le ciel s'emporte. Je le dis depuis toujours, je ne sais pas dire je t'aime. Dis-moi pourquoi mon amour, je retombe toujours en amour. Quand même, quand même, on n'est-tu pas quand on s'aime.
L'amour est un monstre, c'était Valère avec Karim Ouellet.
Alors, section libre, j'ai décidé de vous lire un texte que j'ai trouvé dans le journal Métro aujourd'hui. Les taxis se cherchent. État des lieux. Alors que Théo avance en terrain incertain, qu'Uber continue de rouler sous le radar et que l'industrie du taxi tente d'éviter la panne sèche, Métro vous propose un petit aperçu de l'état du taxi à Montréal. C'est un article signé Mathias Marchal. Théo Taxi s'agrandit. 2 ans et demi après sa création, la compagnie de taxi d'Alexandre Taillefer doit assurer sa croissance ou mettre la clé sous la porte. C'est ce qu'a déclaré à la fin de l'année 2017 le Dragon montréalais qui, semble-t-il, a peine à attirer de nouveaux investisseurs autour de la nouvelle ronde de financement. Finalement, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, et le fonds XPND Capital ont officialisé hier leur investissement de 17 millions dans Taxelco, une somme qui s'ajoute aux quelques 80 millions déjà engagés. En entrevue, M. Taillefer avait déclaré il y a 10 jours que les coûts d'exploitation de son entreprise atteignaient 7 millions par année. À 110 voitures, on n'est pas rentable, mais si on peut amortir cela sur 400 voitures, ce sera plus facile, avait ajouté M. Taillefer. Uber en roue libre. Presque 1 an et demi après le début du projet pilote encadrant les activités d'Uber, Québec indique avoir récupéré 12 millions en redevances auprès de la multinationale. En parallèle, un comité piloté par le ministère des Finances est chargé d'évaluer les pertes pour l'industrie du taxi. Le comité doit d'abord définir les prochains jalons de l'accompagnement de notre gouvernement auprès des propriétaires de permis de taxi, dont la valeur a chuté depuis quelques mois, a mentionné Marie-Pierre Richard, attachée de presse du ministre des Transports André Fortin. Le gouvernement s'est donné jusqu'à fin de mars et au dépôt du budget pour proposer des solutions. Dans l'industrie, on ne s'attend pas à grand-chose car chaque fois que le gouvernement a dit quelque chose, il a fait exactement le contraire, a répliqué Moussine El Meliani, propriétaire de taxi et fondateur de la Ligue des taxis. Les chauffeurs s'impatientent. La nouvelle image de marque des taxis montréalais, le bonjour et la couleur variant pour chaque compagnie, a été adoptée par 600 à 700 chauffeurs. On aimerait dépasser le nombre de 2000 véhicules d'ici 2 ans, a lancé Marie-Hélène Giguère, porte-parole du Bureau du taxi de Montréal. Quant aux modules de paiement par carte de crédit, ils sont obligatoires dans chaque taxi. Néanmoins, les chauffeurs ont dû payer ces améliorations de leur poche et le projet de caméra dans les taxis est au point mort. Installer des caméras selon les spécifications de la ville devait nous coûter 3 000 $ par véhicule. Apposer la nouvelle image de marque coûte 1 500 $. Tout ça alors que les permis ont perdu au moins la moitié de leur valeur, déplore M. El-Maliani. Enfin, le fonds de modernisation qui doit aider l'industrie grâce aux redevances et aux taxes n'a toujours pas été créé. Dans la mise à jour de la presse, Réseau électrique métropolitain, la Caisse choisit SNC-Lavalin et Alstom. Des bayous à chez nous, Edmund McIlhenny était probablement loin de se douter qu'il était sur un coup aussi fumant en inventant la sauce Tabasco il y a de cela 150 ans. Sa sauce piquante a eu, contre toute attente, un effet explosif sur la cuisine et a fait rapidement le tour du monde. Petite histoire et variante à la québécoise, c'est Isabelle Morin dans la presse. Inventée en 1868, la célèbre sauce Tabasco est devenu un classique pour accompagner les huîtres, relever les Bloody Caesar ou les plats de style Tex-Mex. 8 déclinaisons de la sauce originale, dont des versions au piment vert, à l'ail et de type Sriracha, sont maintenant vendues dans 185 pays à travers le monde. Chez nous, elle fait partie des condiments incontournables, comme la mayonnaise ou le ketchup, depuis plus d'un siècle. Qu'est-ce qui a bien pu contribuer à rendre si populaire une sauce aussi simple? C'est la question qui brûle les lèvres. C'est un produit polyvalent qui peut rehausser n'importe quel aliment ou boisson, répond le vice-président principal de McIlhenny, Harold Took Osborne, qui appartient à la 5e génération à diriger l'entreprise à l'origine de la célèbre sauce. Au Canada, il est surtout associé au Bloody Caesar. Il relève aussi les plats tomatés comme la pizza ou les pâtes, enchaîne-t-il. Mais selon les régions du monde, on l'utilise de différentes façons sur les tacos, les avocats, les œufs. Nous travaillons avec un chef au Royaume-Uni qui aime en mettre sur son popcorn. Le respect de la tradition. Depuis ses débuts, la Tabasco est fabriquée à Petite Anse, Avery Island, en Louisiane, une île entourée de bayous. C'est là qu'on cultive toujours une parcelle de petits piments rouges de quelques centimètres de long qu'on appelle Tabasco et qui ont valu son nom au produit. Seuls 3 ingrédients entrent dans la composition de la Tabasco, des piments, du vinaigre et un peu de sel. Le secret de cette sauce relèverait plutôt du savoir-faire, selon le dirigeant de McIlhenny. Les récoltes se font encore à la main, au moyen d'un petit bâton rouge qui fait office de référence pour le choix des piments. La recette, le processus et les ingrédients sont restés quasi inchangés depuis que mon arrière-arrière-grand-père a commencé à faire la Tabasco en 1868, affirme M. Osborne. Les piments sont d'abord broyés et salés avant d'être mis à fermenter en fût de chêne pendant 3 ans. Une fois vieillis, la mixture est filtrée puis mélangée à du vinaigre et mise en bouteille. La recette est peut-être simple, mais il y a beaucoup d'efforts déployés dans la production, assure-t-il. De la chaleur fabriquée au Québec, sur l'échelle de Scoville, qui est en quelque sorte l'échelle de Richter du piment, la sauce Tabasco se classe entre 2500 et 5000, évalue Christian Bond, cofondateur de saucepiquante.ca. C'est une puissance de chaleur relativement accessible si on considère que cette mesure s'échelonne de 0, qui équivaut à l'intensité du poivron vert, jusqu'à 16 millions dans le cas de la capsaïcine pure, qui est la principale molécule responsable de la sensation piquante. Capsaïcine, ça s'appelle CAPSAITRÉMA-CINE, donc capsaïcine pure. La Tabasco demeure un choix prudent quand on a les papilles relativement sensibles, comme c'est le cas chez les Québécois. Encore frileux à l'idée de manger piquant, observe Christian Bond. Mais on compte de plus en plus d'amoureux du piment, selon lui. Son entreprise a flairé ce buzz en 2014 et propose maintenant plus de 800 sauces piquantes et produits connexes. Les gens veulent explorer. Ils ont peur du piquant, mais ils commencent à s'initier. Les restaurants, entre autres, sont de plus en plus nombreux à mettre les piments au menu, dit Christian Bond. Car il y a un monde de chaleur à découvrir au-delà de la Tabasco, considérée chez les amateurs de piquant comme une sauce initiatique d'entrée de gamme. Les connaisseurs recherchent non seulement le kick de la brûlure et son effet euphorisant, mais aussi la subtilité des saveurs des piments qui peuvent être plus florales ou sucrées. Le problème est souvent que les gens ne savent pas comment utiliser la sauce piquante en cuisine, estime le spécialiste du piquant. Or, elle a le don de réveiller toutes les préparations, de la vinaigrette aux œufs, en passant par les marinades ou les pommes de terre. Certains en mettent même sur leur dessert, comme quoi tous les prétextes sont bons pour mettre du piquant dans son assiette. Et 5 produits à la sauce d'ici. Sir Richard Firebarns Original, ça coche, point d'exclamation, chaud de boucan, spécial western. Alors, ce sont les suggestions de Christian Bond de saucepiquante.ca. Et Mathieu me disait que lui, il en mettait de la Tabasco sur des chips ordinaires. Bonne idée. Vous écoutez Le quotidien des quotidiens, c'est terminé. Un grand merci d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis qui vous invite à rester là si vous nous écoutez en direct. Les paractualités s'en viennent. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical.